Vous écoutez Lille 1 Info, le magazine consacré à l'Université Lille 1, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. On va bouger aujourd'hui sur Radio Campus, on va parler de mobilité à l'international. Et oui, oser l'international avec l'Université Lille 1. Aujourd'hui, notre invité est M. François-Olivier Sesse. Il est vice-président des relations internationales et aussi des ressources numériques et apprentissage. Bonjour M. Sesse.
Bonjour.
Donc voilà, on va parler aujourd'hui d'études et d'échanges peut-être avec des étudiants et des universités dans le monde. On va parler aussi du fait que rester dans une région, c'est bien pour la connaître, mais c'est bien aussi d'en connaître d'autres. Qu'est-ce qui vous a motivé pour justement participer à ce développement à l'international de l'Université Lille 1 ?
Beaucoup de choses. Alors j'ai une petite anecdote personnelle, si on peut commencer par ça. C'est que je suis un des premiers étudiants Erasmus quand j'étais étudiant. En 1988-89, je suis parti en tant qu'étudiant en maîtrise de géographie à l'époque pour faire un semestre d'études à l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Donc ça, c'est le début historique.
Donc ce dispositif, on va dire, l'Erasmus, est déjà ancien. Ça fonctionne toujours. C'est signe qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent et qui sont durables comme développement.
Oui, c'est un programme européen, comme vous le savez. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Université Lille 1 est une des universités leaders en France dans le cadre de son intégration dans le programme Erasmus et qu'on va continuer à amplifier cet effort et on va pouvoir permettre à nos étudiants d'aller étudier en Europe, mais aussi en dehors d'Europe.
Erasmus, a priori, c'est limité à l'Europe ou ça change de cadre ?
Alors Erasmus, il y a un programme Erasmus tout court qui est limité à l'Europe, mais ce qu'on appelle l'espace européen d'enseignement supérieur, c'est-à-dire à l'Union européenne, plus quelques pays limitrophes comme la Suisse, la Norvège ou la Turquie, par exemple. Et ensuite, il y a Erasmus Mundus, qui là s'occupe de l'ensemble du monde, mais qui est surtout un programme pour labelliser des masters et accueillir des étudiants extérieurs à l'Europe dans l'Union européenne.
Alors c'est vrai que dans le monde, il y a des pays, il y a des frontières encore qui sont bien solides, j'allais dire, qui résistent et qui freinent aussi ces échanges. Je vois par exemple, il y a la zone Schengen. On peut peut-être donner un peu sa spécificité. Je sais qu'il y a des étudiants qui viennent en France, mais qui ne peuvent pas aller en Angleterre sans visa, par exemple.
Alors la différence est assez compliquée, mais on peut essayer d'expliquer rapidement. L'espace Schengen a un système de visa pour touristes. Et l'espace Schengen comprend, je suis de tête, mais je crois qu'on n'est qu'à 23 pays de l'Union européenne sur les 27. Par contre, les visas plus longs que quelques jours, plus longs que 3 mois en réalité pour touristes, donc les visas d'études sont encore des visas nationaux. Donc un étudiant qui vient étudier à Lille 1 a un visa français, même si pour entrer, il a un visa ce qu'on appelle de transit Schengen. Et il y a deux pays très proches de nous, donc le Royaume-Uni et l'Irlande, qui ne font pas partie de l'espace Schengen. Donc un étudiant, par exemple russe, qui serait étudiant à Lille 1 avec un visa français dans le cadre de l'espace Schengen, ne peut pas aller librement au Royaume-Uni, il faut un visa britannique.
Alors, une petite précision, même quand il retourne dans son pays et qu'il fait escale à Londres, eh bien, son voyage lui est refusé.
Oui, oui, oui. C'est une décision britannique. Voilà. Nos amis britanniques sont des Européens, je vais dire, compliqués parfois.
Très compliqués, oui. Voilà, donc vous devez jongler avec ce maquis administratif parfois.
Oui, mais on a la chance d'avoir un service des relations internationales qui est très professionnel à l'Université Lille-1, qui a de vraies compétences. Pour donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 4000 étudiants qui ne sont pas français, donc qu'on appelle internationaux dans notre jargon, sur l'Université Lille-1, et on envoie à peu près 1000 étudiants à l'étranger chaque année. Donc il y a quand même un service qui a une vraie valeur ajoutée pour nos étudiants.
Donc ces étudiants, ils sont répartis un peu comment, si on voit les grandes statistiques
Pardon, excusez-moi. Je tousse, je suis désolé. On a à peu près les ordres de grandeur. Les deux communautés les plus importantes d'étudiants étrangers à Lille, ce sont les Marocains et les Chinois, qui sont, ça varie un peu d'une année à l'autre, l'ordre de grandeur entre 700 et 800. Ensuite, on a à peu près entre 600 et 700 étudiants du reste de l'Union européenne, des Belges, des Allemands, des Roumains par exemple. Et ensuite, on a des étudiants de l'ensemble du monde, des Africains, d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine. Et on voit une augmentation en ce moment assez rapide des étudiants européens. C'est un de nos objectifs, d'avoir plus d'étudiants européens parmi les étudiants étrangers à Lille.
Alors, j'ai vu tout à l'heure à l'espace culture de Lille un étudiant qui co-organisait une rencontre autour justement de l'économie sociale et solidaire dans le cadre d'un projet européen. Il est venu ici en France, à Lille, avec ses étudiants avec lesquels il travaille en Belgique, présenter un petit peu cette dimension. Il y a finalement relativement peu d'échanges avec les universités belges, ou du moins pas beaucoup d'étudiants belges qui viennent en France, et réciproquement, par rapport à d'autres pays, on parlait de la Chine tout à l'heure, à quoi ça peut être dû ?
Alors, sur la Belgique, c'est la difficulté que l'on a, c'est que les programmes européens ne sont pas adaptés. C'est-à-dire que les programmes européens veulent vous aider financièrement à partir du moment où vous venez étudier un semestre au moins à Lille 1, alors qu'on a énormément d'enseignement en commun. Par exemple, il y a 3 ou 4 masters à Lille 1, on peut les citer, en aménagement urbanisme, par exemple, en gestion des ressources humaines, en sciences de la terre, je prends des exemples, qui ont des UE communes, donc des unités d'enseignement communes avec des universités belges, avec des professeurs belges qui viennent enseigner. On a énormément aussi de collègues belges dans les jurys de thèse, par exemple, qui participent à nos jurys de thèse. Et donc, on est plutôt sur ce qu'on appelle les mobilités de courte durée avec les universités belges, et on est en train de renforcer ça. On a eu aussi Lille 1, Lille 2 et Lille 3, on signe un accord de coopération renforcée avec l'université de Gand, qui est une des très bonnes universités européennes, qui est à 70 km de nous, donc très proche. Et on est en train de travailler actuellement la mise en place, dès la rentrée 13, de 5 doubles diplômes de master. Donc on est en train de renforcer très fortement cette coopération avec les universités belges. De la même façon, comme les frais d'inscription ont augmenté fortement dans les universités wallonnes, on commence à avoir en première année de licence quelques étudiants belges qui, du Tournaisis, alors qu'ils allaient à Bruxelles ou à Louvain faire leurs études, viennent les faire à Lille 1. Donc ça, c'est en train de changer depuis 1 ou 2 ans.
Il y a des programmes également sur des dispositifs transfrontaliers, des financements qui existent au niveau de l'Europe. Est-ce que vous captez ces flux financiers ou pas ?
Alors, ces programmes qu'on appelle Interreg, on en a, je suis tête, mais je crois 600 cours dans le cadre d'Interreg, essentiellement sur des programmes de recherche, c'est-à-dire des laboratoires qui mènent des travaux en commun sur des questions de recherche. On est actuellement en train de travailler au dépôt sur un projet pour la formation de programme Interreg, mais le programme Interreg change de nature en 2013 et on ne peut pas déposer de projet en 13 puisque la période d'Interreg va s'arrêter. C'est Interreg 4 qui se termine et à partir du 1er janvier 14 va commencer Interreg 5 et on pourra commencer en janvier 14 à déposer de nouveau des projets Interreg.
Alors, bien sûr, Lille est en France, mais Lille est aussi en euro-région. Est-ce que ces deux dimensions s'opposent parfois ou se complètent ? Comment vous voyez les choses ?
Pour moi, elles se complètent, c'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir notre proximité les meilleures universités européennes, qu'elles soient belges, britanniques, néerlandaises, allemandes. elles sont là, les meilleures universités européennes. Elles sont dans ce qu'on appelle l'Europe du Nord-Ouest. Et dans la mission qui m'a été confiée par les conseils et à l'initiative de Philippe Rollet, il est extrêmement important qu'on renforce nos liens avec les universités, ce que vous appelez l'Eurorégion, c'est-à-dire l'Europe du Nord-Ouest de proximité, parce que dans le domaine de la recherche, par exemple, ça permettra à nos doctorants d'avoir des doctorants en cotutelle avec des laboratoires d'excellence et leur permettre de faire des recherches de meilleure qualité à l'issue de leur doctorat. Et on pourrait prendre l'exemple sur la formation, sur la recherche fondamentale, par exemple. Les bons sont là en Europe, ils sont autour de nous. Donc il faut qu'on joue de cette position géographique très favorable pour nous.
Alors effectivement, cette recherche, elle est favorisée en région par des financements notamment nationaux, européens, régionaux aussi. Et il existe des pôles d'excellence. Je crois que l'ILA en fait partie. Il y a des laboratoires qui sont sélectionnés, qui sont financés. Est-ce que il existe au niveau de cette Eurorégion justement une complémentarité et une relation entre ces labos pour travailler ensemble sur des projets éventuellement communs?
Elle existe, c'est même en termes de coopération de proximité, c'est dans le domaine de la recherche et de la coopération entre laboratoires où elle est le plus efficace. Elle est tellement importante en nombre de projets qu'on a même du mal à en faire une synthèse actuellement. On essaye de le faire, on a du mal à voir tellement il se passe d'actions communes de recherche, notamment avec les universités belges de proximité. Et on a un vrai soutien en plus dans ce domaine-là par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais qui amène un soutien financier, qui a une vraie politique de soutien à la recherche. Et de la même façon, la communauté urbaine de Lille, LMCU, amène des soutiens financiers pour encourager ces coopérations dans ce que vous appelez l'Eurorégion.
Au-delà de l'Eurorégion, vous parliez tout à l'heure d'étudiants qui venaient de pays beaucoup plus lointains, notamment la Chine par exemple. Est-ce que c'est valorisant pour une université d'accueillir beaucoup d'étudiants étrangers très distants comme ça? Est-ce que les collaborations qui existent, les programmes de partenariat entre universités françaises et étrangères sont valorisantes pour le prestige de l'établissement qu'est l'ILA, l'université, et aussi amène justement à avoir une vraie interrogation sur les valeurs à défendre en commun et porter peut-être en commun certains axes de recherche qui sont l'avenir à la fois de la recherche mais aussi de la société.
L'ILA a une vraie tradition de coopération internationale et de solidarité. C'est un des éléments importants de nos traditions et il faut continuer à le faire. L'idée est extrêmement simple. Il y a des pays émergents ou des pays en voie de développement qui ont besoin de faire former leurs cadres à l'étranger parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire pour assurer un développement derrière. Et donc nous accueillons par exemple des étudiants africains, des étudiants latino-américains qui viennent se former à l'ILA avec projet de retourner dans leur pays et de mettre au service de leur pays, de l'économie de leur pays, les compétences qu'ils ont acquises ici. Ça fait qu'on est un vrai campus international. Il suffit de se promener sur le campus pour se rendre compte qu'on est un campus mondial même. Et ça fait partie du charme de ce campus qui est très vert mais qui est aussi très multiculturel. Et on va continuer à le faire. On est aussi en train de travailler sur des projets, notamment de double formation, par exemple, avec des pays émergents. Je vais prendre un exemple pour être très concret. On a une réunion à l'IAE récemment, l'IAE qui est une des composantes de l'ILA. Nos collègues de l'IAE aimeraient développer un master de commerce international sur les achats et ils nous demandent par exemple de voir si on ne peut pas trouver un bon partenaire indien pour eux parce que l'Inde est devenue un pays extrêmement important économiquement et de faire former des étudiants français en partenariat avec l'université indienne pour leur apprendre à travailler sur le marché indien, ça permettra à nos grandes entreprises par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais derrière d'avoir des gens capables de travailler pour elles à l'international. Exemple très concret par exemple.
Alors cette dimension internationale de l'Université Lila, on la ressent dans certains événements, par exemple le festival Mixité qui a lieu chaque année. Il y aura aussi une exposition photo qui va se faire autour des costumes nationaux, enfin traditionnels des étudiants de tous ces pays. Ça va s'appeler Us et Costumes à l'espace culture de l'Université Lila. Il y a aussi les nouvelles langues qui sont multipliées, qu'ils soient chinois ou berbères ou d'autres pays ou vietnamiens. Enfin, je veux dire, on sent que ces étudiants ont à la fois besoin de vivre un peu de leur culture traditionnelle, habituelle, et aussi de l'échanger, de la partager, de la faire connaître.
Vous l'avez extrêmement bien résumé, Mixité est un événement important pour l'île, hein, qui permet de montrer que nous sommes non seulement une université, mais également un espace culturel. Et l'esprit Mixité, qui est un espace de rencontre entre les cultures du monde et les cultures de la ville autour de ce très joli campus de Villeneuve-d'Ascq, est un élément très important pour nous. Vous citez par exemple les Nouvel An, le fait que les associations d'étudiants étrangers qui souvent se regroupent par nationalité essayent de s'impliquer dans ces événements. C'est extrêmement sympathique, d'autant qu'il y a des nouvelles nationalités qui arrivent. On va prendre un exemple, on est en train d'y réfléchir, mais on a de plus en plus d'étudiants qui viennent du Kazakhstan, qui est un pays que personne ne connaît quasiment à Lille. J'ai l'occasion d'y avoir travaillé 4 ans et je le connais assez bien, y compris je fais des recherches sur ce pays, je suis géographe. Et donc on va voir comment est-ce qu'on peut associer une association qui est en train de se former, là, des étudiants kazakhs ici à Lille. Et on va essayer de voir si on peut faire un nouvel an kazakh, par exemple, cette année, pour amener une dimension d'étonnement culturel à nos étudiants français de souche, mais aux autres étudiants du monde entier que nous accueillons.
Je crois d'ailleurs qu'il ne serait pas en terrain complètement inconnu avec les étudiants chinois du Xinjiang, par exemple.
Il y a des proximités culturelles, il y a des communautés ouïghours dans les deux parties, au Kazakhstan et en Chine, et les Kazakhs et les Ouïghours se comprennent assez facilement en parlant chacun sa langue. Ce sont deux langues turciques assez proches, et il y a une culture très proche de nomades d'Asie centrale.
Alors justement, ces cultures peuvent être parfois très proches, mais parfois peuvent s'opposer dans le cas de conflits, etc. À l'université, bien sûr, on accueille tout le monde. Est-ce que c'est... problèmes politiques rejaillissent aussi sur la vie des étudiants, sur leur façon de se comporter, voire leurs relations entre eux.
À ma connaissance, il n'y a pas de problème. Après, je ne connais pas toute l'université. Nous avons des étudiants de pays extrêmement variés, de cultures très différentes. On a même, il y a un master à Lille 1 où il y a des étudiants palestiniens et israéliens dans le même master, par exemple, et ça se passe de façon tout à fait cordiale, dans l'esprit de respect de la culture de chacun qui nous est cher à Lille 1.
Alors justement, on peut imaginer que puisque les gens arrivent à bien s'entendre quand ils ont fait des études ou quand ils font des études supérieures, finalement, la solution, c'est peut-être que les gens soient mieux éduqués pour éviter de se battre inutilement.
Je ne peux que tout à fait d'accord avec vous. L'éducation est souvent la meilleure façon de régler les conflits à long terme, d'éduquer les gens, de leur apprendre à se respecter, leur apprendre à travailler ensemble. C'est la meilleure des écoles de paix.
Voilà, l'éducation, et si connaître l'autre, l'altérité dont on parle beaucoup, mais finalement, rien ne vaut être sur les mêmes bancs.
Je suis 100% d'accord avec vous. Il n'y a vraiment pas de... On est complètement sur la même longueur d'onde, si je puis m'exprimer ainsi, à la radio.
Donc on est ici sur l'université Lille 1, hein, donc une université à dominante scientifique, technologique et sciences humaines, on va dire, pour résumer. Ces valeurs, bien sûr, ces enseignements, on le vent en poupe, on sent bien les besoins de l'économie, on sent bien les besoins aussi en termes de réflexion sur la société, la nécessité de vivre ensemble, comme on l'a dit tout à l'heure, donc d'apprendre aussi... à apprendre ces cultures différentes, de comprendre au travers des problèmes de la société comment on peut les dépasser en vivant et en travaillant, en œuvrant. Donc cette université, est-ce que quelque part avec son modèle de diversité peut être aussi pour d'autres, sinon un modèle, du moins un exemple?
Je pense que oui. Après, on est aussi dans des logiques internationales de coopération et surtout pas de... On peut expliquer notre modèle, on peut le mettre en avant, notre modèle de respect des cultures de chacun et d'accueil des étudiants, quelle que soit leur origine. Il ne faut surtout pas qu'on devienne donneur de leçons. Ça fait toujours très prudent à l'international, parce que les cultures, les conflits, les tenants, les aboutissants sont différents. Mais on travaille de préférence avec des universités qui nous ressemblent, donc par exemple avec des universités publiques. Ça fait partie de notre stratégie à l'international. On ne travaille pas exclusivement avec des universités publiques, puisqu'il y a des pays où c'est compliqué de travailler avec des universités publiques parce qu'elles n'ont pas toujours de moyens ou de systèmes qui permettent de travailler. Mais on est dans des logiques de travailler avec des universités laïques et publiques de préférence, par exemple. Ça, c'est planète.
Est-ce que vous sentez, depuis ce nouveau gouvernement, des changements en termes de politique d'accès et d'accueil de ces étudiants, notamment les contraintes administratives?
Alors oui, il y a des changements. Le premier changement qui est extrêmement important pour nous, c'est que la circulaire Guéant, qui limitait très fortement l'accès des étudiants extérieurs à l'Union européenne à l'enseignement supérieur en France, a été suspendue. Donc on a beaucoup plus facilement maintenant les visas d'études pour des étudiants en dehors d'Europe. Il y a eu aussi une création qui est passée un peu inaperçue, c'est la création de Campus France. Campus France existait avant, mais n'était qu'un organe de promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Campus France est devenu maintenant un organisme beaucoup plus intéressant qui peut gérer notamment ce qui était EGID avant, donc un organisme qui gérait des échanges, et la partie internationale du CNUS à Paris, donc qui ont fusionné. Donc il y a un opérateur unique, ça c'est extrêmement intéressant. Au niveau des assises de l'enseignement supérieur, il y a une vraie discussion sur l'internationalisation avec une idée qui est quand même assez différente, qui est de dire accueillir des étudiants étrangers, c'est aussi avoir une influence économique, sociale et humaine à long terme. Et donc on va essayer de continuer à le faire avec nos principes français, notamment un principe sur lequel on est inquiet avec le gouvernement précédent, qui était le maintien des frais de scolarité identiques pour les étudiants étrangers et les étudiants européens. Avec le gouvernement précédent, il aurait été possible qu'on nous propose de faire payer très cher les étudiants non communautaires, ce qui les aurait exclus en grande partie de l'enseignement supérieur français. Donc il y a des changements comme ça, mais il faut attendre la prochaine loi, donc la LRU 2, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui va être en discussion au Parlement au début de l'année prochaine, a priori.
Alors, certains étudiants étrangers viennent à Lille ou en France, hein, d'une manière générale, et ne maîtrisent pas trop la langue. Il existe à Lille un espace, un lieu qui permet justement une mise à niveau en français. C'est la Maison des Langues. Et d'ailleurs, ce soir, il y a le Café Langue qui se tient à l'espace culture, qui est bien sûr organisé par la Maison des Langues, où les étudiants, de quelque nationalité qu'ils soient, peuvent aborder la langue d'autres étudiants, et c'est l'occasion d'échange, mais aussi de mieux comprendre peut-être les sonorités des langues et de se familiariser aussi avec quelques mots qui peuvent être utiles dans les échanges. Au-delà de l'aspect formel des cours, il y a aussi la relation humaine qui est importante.
Oui, tout à fait. Donc la Maison des Langues a deux fonctions. Elle a d'abord une fonction de préparer nos étudiants français à partir pour un stage ou des études internationales. Donc elle enseigne l'anglais, l'allemand, le néerlandais, et on pourrait faire une liste relativement longue des langues qu'elle enseigne. Et elle a aussi un service de français langue étrangère. Nous sommes une des rares universités scientifiques en France qui a un service de français langue étrangère pour accompagner les étudiants étrangers et les perfectionner en français pendant leur séjour d'études à Lille. Ou un petit peu avant leur séjour, il y a des étudiants qui viennent l'été notamment, par exemple, pour se préparer à étudier en France. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et vous assistez le Café Langue, donc, qui a lieu ce soir à 18h30 à l'Espace Culture. Le Café Langue, c'est extrêmement simple. Tous les étudiants sont les bienvenus à partir du moment où ils ont envie de parler soit français, soit une langue étrangère. Et on fait des tables en langue. Donc il y aura une table en langue russe, une table en langue portugaise. Il y aura des étudiants étrangers qui vont vouloir parler français aussi. Et l'idée, c'est de faire se rencontrer les étudiants étrangers, les étudiants français. Et j'incite aussi les étudiants français à venir au Café Langue, parce qu'ils vont pouvoir, s'ils ont un projet d'études, rencontrer par exemple un étudiant espagnol et lui demander comment c'est la vie dans son université à lui, comment ça fonctionne. Et puis c'est comme ça qu'on crée des relations d'amitié et des réseaux sociaux derrière qui se créent extrêmement facilement.
Tout à fait. Puis il y a aussi l'expérience des binômes, hein, où des gens peuvent, avec un étudiant ou deux étudiants entre eux, s'apprendre leur langue respective.
Donc on appelle ce système tandem, c'est le terme qu'on utilise. Donc le système est extrêmement simple. On prend un étudiant français, un étudiant étranger, par exemple espagnol, c'est l'exemple qu'on peut reprendre. L'étudiant français a un projet d'études en Espagne, on les fait se rencontrer, souvent dans la même composante si possible. Donc par exemple deux étudiants en économie, et il y a un échange de services, de cours de langue croisée, et puis souvent des relations d'amitié qui se créent. Et on essaye de placer les étudiants français face à des étudiants qui viennent d'université où le français aimerait aller à l'avenir. Donc c'est un système extrêmement souple et sympathique.
Alors, si on va même plus loin, on peut dire aussi qu'à l'étranger, parfois, il y a du travail, parfois, hein, j'allais dire, et que le fait de connaître des étudiants étrangers, ça peut éventuellement faire partie du réseau qu'on se construit quand on est étudiant.
Oui, c'est très juste. Et puis, il y a même sur les stages à l'étranger, c'est un élément extrêmement important sur lequel on communique peut-être. On a 1 000 étudiants d'ILIN qui partent chaque année à l'étranger sur environ 20 000. Sur ces 1 000 étudiants, autour de 650 partent faire un stage en entreprise à l'étranger. La plupart en Europe et dans les pays développés en étant honnête, mais maintenant on a des anciens diplômés de l'ILIN un peu partout dans le monde. Et donc il y a un réseau aussi formation par formation pour de contacts. Dans mon master par exemple, j'ai une étudiante qui a terminé cet été, qui travaille en Italie maintenant, qui a trouvé un travail en Italie juste derrière et qui va nous accueillir en stage dans son entreprise, un étudiant de première année de master.
Donc ça peut se faire soit dans le cadre d'échanges entre universités ou dans le cadre de programmes à l'international.
Oui, dans le cadre de programmes, puisqu'il y a aussi des doubles diplômes. L'université Lille a maintenant, alors le chiffre exact, j'ai toujours un doute, mais je crois 25 doubles diplômes, la plupart sont des masters, où l'étudiant français fait au moins un semestre d'études dans l'université partenaire et obtient à la fin de son master, par exemple, les 2 diplômes. Et il y a très souvent dans ce cas-là aussi un moment où il y a un stage en laboratoire ou en entreprise. Et on arrive à avoir comme ça des étudiants qui trouvent assez facilement du travail en France ou même en dehors de France. Et c'est de plus en plus le cas, notamment dans nos doubles diplômes, par exemple franco-allemand. Il y a beaucoup d'étudiants qui restent en Allemagne, qui est un pays qui connaît un peu moins de chômage que nous, malheureusement.
Eh oui.
Mais avec des emplois extrêmement intéressants. Et tant mieux pour eux. Hein. C'est un pays de l'Union européenne comme un autre et plutôt sympathique.
Quand ça ira mieux, ils reviendront.
J'espère bien.
Bien, monsieur François-Olivier Cesse, bon, on va peut-être conclure. Peut-être si vous aviez un vœu pour 2013, ce serait lequel?
Alors, si j'ai un vœu pour 2013, c'est d'augmenter le nombre d'étudiants de l'université Lille qui vont faire au moins un semestre d'études ou de stage à l'étranger et de l'augmenter sensiblement. Avec tous les outils dont nous disposons, c'est relativement possible et les financements sont nombreux. Donc l'argent n'est pas un handicap, c'est souvent plutôt la volonté et l'esprit des étudiants qui sont un petit peu casaniers. Il y a le petit copain, ils ont du mal à partir. Donc si on peut fortement augmenter ce nombre d'étudiants qui partent, je serais ravi et je souhaite bien sûr tout le meilleur à ces étudiants qui iront en mobilité à l'étranger.
Un contact pour améliorer ou faciliter les choses?
Alors, il y a un service des relations internationales qui est au bâtiment A3. C'est ouvert aux étudiants toutes les après-midi du lundi au jeudi, de 13h30 à 17h. Et c'est ouvert le vendredi matin aux étudiants de 9h à midi. Ils sont les bienvenus s'ils sont sur le campus. Sinon, www.univ-lilin.fr/international.
François-Olivier Cesse, je vous remercie.
Merci, monsieur. Thank you.